Soyez les bienvenus à l'écoute des mondes, une production de Vincent Zanetti consacrée aujourd'hui à l'art du oud, le luth arabe par excellence, mais décliné ici au féminin sous les doigts et le plectre expert d'une soliste tunisienne tout récemment installée à Lausanne. Elle s'appelle Yousra Dhabi et en 2004, elle a publié dans la prestigieuse collection de l'Institut du monde arabe à Paris un disque tout à fait remarquable intitulé « Rhapsodie pour luth ». La majeure partie des pièces qui y sont jouées sont de sa composition, à l'image de celle-ci, intitulée « Farah, la joie ». Thank you. Lorsqu'on voit aujourd'hui des images de Bagdad à la télévision, Bagdad, ville meurtrie, on a peine à croire que cette même ville a été pendant plusieurs décennies du XXe siècle une véritable capitale de la culture arabe et notamment de la musique. Ainsi, dans les années 1930, le fondateur du conservatoire de musique de Bagdad, Sharif Muhyiddin Haidar, a notamment contribué à développer une véritable pratique soliste du luth oud, alors que jusque-là, la musique instrumentale arabe était plutôt marginalisée. C'est la naissance de ce qu'on continue à appeler l'école de Bagdad, qui a vu s'épanouir des talents comme les frères Jamil et Munir Bashir, ou bien plus tard Nasser Shama. Des talents qui ont fini par se disperser hors d'Irak, pour les raisons que l'on sait, la dictature de Saddam Hussein, la guerre à répétition, l'asphyxie économique du pays, et j'en passe, mais ça, c'est une autre histoire. À Bagdad d'abord, puis en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Turquie, en Palestine, un nombre toujours croissant de virtuoses n'ont jamais plus cessé d'enrichir le répertoire soliste du oud. Et de toute évidence, l'artiste que je vous invite à rencontrer aujourd'hui à l'écoute des mondes appartient à cette classe non seulement de grands instrumentistes, mais aussi de vrais maîtres de musique. Elle s'appelle Yousra Dabi. Elle est tunisienne et depuis son baccalauréat en 1986, elle a accumulé les diplômes et les expériences musicales en tant que concertiste, en tant qu'enseignante au niveau du conservatoire et de l'Institut supérieur de musique de Tunis, mais aussi en tant que chercheuse et experte dans la connaissance du patrimoine musical tunisien. Entre 2003 et 2004, elle a même été productrice d'une émission musicale sur la deuxième chaîne de la télévision tunisienne. C'est que Yousra Dabi est une artiste passionnée et créative, douée à la fois d'une force de travail certaine et d'une sensibilité rare. Certains connaisseurs l'appellent la sultane du luth. Et de fait, elle a été invitée à se produire sur des scènes très prestigieuses, celles de l'Opéra du Caire, du Festival international de Marrakech ou encore de l'Institut du monde arabe à Paris, lequel institut a par ailleurs publié en 2004 ce CD « Rhapsodie pour luth » dont les plages vont nous accompagner et nous servir aujourd'hui de décor musical. Depuis peu, Yousra Dabi habite à Lausanne, d'où elle se propose de poursuivre sa carrière et son travail pédagogique. Elle a notamment ouvert une nouvelle classe de oud et de chant oriental dans le cadre des ateliers d'ethnomusicologie de Genève. Mais là, c'est bien à son domicile, à Lausanne donc, qu'elle nous reçoit. Elle nous parle de sa musique, bien sûr, mais aussi de son apprentissage du luth. Et vous le verrez, il fut un temps tout proche encore, où à Tunis, il n'était pas bon être une fille si l'on voulait apprendre un instrument. Ce qui ne donne que plus de saveur encore à l'œuvre musicale de Yousra Dabi. En voici sans attendre un nouvel extrait, une composition dans le mode Cheskar, intitulée « Raksa ». La danse. Thank you. Yusra Dhabi, j'aimerais que vous nous parliez de vos premières émotions musicales. Quels sont vos premiers souvenirs relatifs à la musique et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la naissance de votre passion ?
Ça a commencé par des soirées chez nous, dans la maison, avec mon père, qui est un chanteur soufi. Et puis ça commence par la musique soufi. Donc c'est mon père qui chantait. Et après, on termine la soirée avec des mouachats, du malouf, des chansons. Et c'était mon grand frère, qui est un très, très mauvais audiste. C'est au moment où il commence à chanter qu'on reconnaît la mélodie, qu'on reconnaît la chanson. Sinon, au niveau oud, il est vraiment catastrophique. Et jusqu'à maintenant, il a plus que 60 ans. Et il me dit, Yusra, est-ce que tu peux me faire apprendre le oud? Je lui ai dit, non, prends la retraite. À ce niveau-là, c'est impossible parce que tu as beaucoup de... Donc, il a beaucoup de mauvaises habitudes et puis ça ne se répare pas. En plus, il est gaucher. Il est gaucher, bon, c'est pas grave être gaucher, mais bon. Mais c'est ça mon problème. Depuis mon jeune âge, je me rappelais des soirées. Je ne chantais pas à l'époque. J'étais toute petite, mais je me rappelais très bien des soirées. Je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi il joue comme ça? Je ne connais pas la réponse, mais je me dis, mais pourquoi il joue comme ça? Bref, il y a aussi, j'ai une sœur qui a une très très belle voix. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ma sœur Najwa, elle avait une très très belle voix et puis toute la famille n'accepte pas qu'elle chante en public. N'ont jamais accepté ça. Alors une fois, elle s'est présentée à la télévision tunisienne. Elle a demandé au réalisateur de l'émission de ne pas faire voir à la télé, donc juste sa voix. Donc à ce moment-là, c'était mon frère, il venait d'écouter la chanson, c'était une chanson de Saliha, donc c'est une chanteuse très ancienne, tunisienne. Il a dit, c'est la voix de ma sœur. Alors je ne vous raconte pas ce qui s'est passé après. Donc là, elle a eu vraiment des coups et je ne sais quoi, bon, bref. Donc je me rappelais très bien de sa voix. Depuis mon jeune âge, je me rappelais... qu'elle me chantait des berceuses, elle chantait tout le temps. Voilà, donc ça a commencé, mon amour à la musique, ça a commencé avec cette ambiance.
Mais alors une ambiance où la musique est pratiquée à la maison, mais comme vous le dites, il y a des interdits en même temps, puisque votre sœur ne peut pas chanter. Donc un cadre très strict.
Je vais vous dire autre chose. Avant, on ne devait pas chanter devant notre père. Les filles ne doivent pas chanter devant notre père. Il est encore en vie. Il a 95 ans en ce moment. Il adore le chant, mais il est strictement interdit de chanter à la maison quand notre père est là. Pour moi, c'était une frustration. Donc du coup, j'ai demandé à l'âge de 8 ans de m'inscrire au conservatoire. C'était ma grande sœur. À propos, je suis la plus jeune. Donc c'est ma grande sœur qui a fait vraiment l'impossible pour que je sois inscrite au conservatoire. Mon père n'a pas accepté ça. Il m'a dit, ah non, c'est un domaine qui est pourri. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Et il faut dire qu'il est imam. Mon père, donc il enseignait à la Zitouna. Et voilà, donc... il a quelques conceptions. Bref, donc là, du coup, c'est mon grand frère qui l'a convaincu que je dois m'inscrire au conservatoire. Mais avant ça, ça a commencé à l'école. J'ai demandé à notre maîtresse que je poursuive avec elle. C'était un club, on faisait un club le vendredi après-midi. Et je lui ai dit, j'aimerais bien... que vous m'appreniez à jouer le luth. Elle a accepté au début, mais après, elle me dit « Ah non, j'ai pas le temps, c'est pas possible, j'avais à peine 8 ans. » J'étais vraiment tournée à la maison, fâchée. J'ai raconté à ma sœur, c'était ça le contexte, pour que je m'inscrive au conservatoire. Elle m'a dit « T'inquiète pas, je vais voir. » Donc voilà, ça a commencé. J'ai commencé le conservatoire, les études académiques. Et ça ne marchait pas bien. C'est-à-dire, les deux premières années, la première année, c'était parfait. Vraiment, c'était une ambiance. Alors, la séance de musique, pour moi, c'était sacré. Et puis, je dois aller coûte que coûte, quelles que soient les conditions. Je dois retourner à la maison en 10 minutes à pied. Sinon, mon père, alors là, il va se fâcher contre moi, parce que je dois faire attention. Donc, imaginez-vous, à 8 ans, à l'âge de 8 ans, je rentre à 8h30 de soir, seule. Et puis, il faut dire qu'on vivait dans un quartier populaire. Donc, à ce moment-là, à cette époque, c'était interdit, la musique. C'était hip, comme on dit chez nous, c'était un nom... C'est-à-dire, notre éducation, c'était plutôt, c'est les filles très éduquées, qu'elles doivent faire attention, ne pas se montrer dans le quartier, je ne sais pas, pendant des heures assez la nuit, parce que la nuit, il faut faire attention, là, tu dois être chez toi. J'ai eu beaucoup de peine, surtout les premières années, à poursuivre les cours de conservatoire tranquille. Mon père demandait tout le temps, où est ta fille? Pourquoi elle n'est pas venue jusqu'à maintenant? Non, c'était tous les jours. Puis après, voilà, à la deuxième année, j'ai commencé l'instrument. Et c'était vraiment le moment le plus fort de ma vie. Parce que il faut passer une année de solfège, de chant, de bramet. Puis à la deuxième année, on a droit à commencer l'instrument. Et là, je suis tombée sur un professeur qui m'a vraiment fait découvrir l'instrument avec toute simplicité. Je me rappelle très bien le premier morceau que j'ai commencé. C'était une chanson de Smahen. Mais vraiment, je faisais le ferdèche, waouh, le ferdèche, comme c'est compliqué, mais j'arrive à le faire. Mais c'était vraiment, c'est simple comme mélodie, c'est rien du tout. Mais pour un enfant, et pour une première fois, mais juste à la troisième année, que ça commence à tourner mal. C'est-à-dire, ils m'ont changé le professeur, c'est un autre professeur, qui est très connu en ce moment. Mais vraiment, il me harcelait tout le temps. Vous, les filles, vous ne pouvez jamais jouer l'instrument. Vous devez rester chez vous. Vous devez faire le ménage. C'était à chaque séance, une séance par semaine. C'était ça. C'était le harcèlement. Alors, laisse tomber l'instrument, le luth, là. Tu peux chanter, je peux te faire une chanson. Ah. Alors, la séance, c'était un calvaire pour moi. Et du coup, j'ai raconté ça à ma sœur. c'était vraiment une confidente. Je lui ai dit, je ne peux plus continuer. Elle m'a dit, il n'y a pas question, tu dois continuer. Si tu aimes l'instrument, tu dois. Elle a essayé de contacter un professeur qui est très, très, très bien, très connu. C'est Alice Liddy. Et déjà, il est mort. Et voilà, elle m'a dit, tu dois avoir des cours privés chez ce monsieur. Les cours privés. Le monsieur du conservatoire, le professeur, mon professeur au conservatoire, il a remarqué que quelque chose a changé. Il m'a dit, tu prends des cours en particulier? Je lui ai dit non, parce que j'avais peur. Parce que c'est lui qui fait les examens, c'est lui qui... Ah non, il m'a dit, c'est l'école d'Alice Liddy. C'est Alice Liddy, parce que c'est son maître aussi. Et depuis, bien sûr, j'ai passé 4 années, je ne vous raconte pas. Donc, c'est toujours le même problème pendant la séance. Ce n'est pas la joie, mais je tenais bon à ce que vraiment j'avance dans l'instrument. Puis après, voilà, j'ai passé le diplôme d'instrument, de musique aussi. Et ça a coïncidé avec le baccalauréat. C'est la même année. Donc, j'ai passé le baccalauréat, je l'ai eu, les diplômes. Et après, j'ai voulu m'orienter à la filière musique.
Mais déjà, Youssala Dabi, déjà avec l'idée d'en faire un métier ou uniquement attiré par la passion de la musique, toujours la passion?
Ah non, c'était l'amour à la musique. C'était... Alors là, jusqu'à la... récemment, que j'ai décidé de changer de carrière carrément, de suivre de la musique. Mais c'était vraiment par passion que je le faisais. Et donc, j'ai souhaité faire la musique au supérieur. Et la famille n'a pas accepté. La famille veut dire mon père. Il m'a dit, il faut que tu fasses d'autres études. Parce qu'on ne sait jamais pour la musique si ça va marcher un séjour ou pas. Et après, quand tu auras ton diplôme, tu peux choisir ce que tu veux. J'étais obligée de faire une carrière paramédicale. J'ai fait de la cytomorphologie, mais en parallèle, je faisais conservatoire. Pas le conservatoire, je poursuivais des cours chez ce monsieur, même après le diplôme à l'ICRITI, en privé. J'ai fait 3 ans, 4 ans d'études de cytologie et j'ai travaillé une année, mais pendant cette année, je me suis inscrite à l'Institut supérieur de musique de Tunis. À cette époque-là, on avait la possibilité d'avoir une équivalence du diplôme du conservatoire, c'est-à-dire accéder directement à la 3e année, au lieu de passer par la 1re année, 2e année. Donc, et du coup, au moment de l'inscription même, la loi a été rectifiée, et alors on doit commencer dès la 1re année. On doit commencer dès la 1re année avec des gens qui n'ont jamais fait de la musique, qui n'ont pas de connaissances, à part ils arrivent à chanter ou bien à faire de la percussion. Voilà, on était 2 clans, le clan des musiciens et des diplômés plutôt, et les autres, c'est des débutants. Ça s'est bien passé, sauf que parfois on se trouve d'étudier des choses très banales. Les ABC du solfège, les ABC du chant. Mais on est arrivé à suivre le train avec tout le monde. Voilà. Thank you.
Yousra Dabi, nous sommes ici dans une musique de tradition, une musique de tradition vivante, l'art du maqam. Une bonne partie des choses ne s'écrivent pas forcément, se passent de personne à personne. Et même l'écriture du luth oud, ça relève pas de l'évidence. On a des microtons, des choses qui sont entre les notes, qui ne se réduisent pas au bémol et au dièse. Vous évoquiez tout à l'heure, d'une part, le travail au conservatoire, et puis en même temps, votre apprentissage, j'aurais presque envie de dire votre initiation auprès de Ali Sriti. Quelle était la différence entre les deux types de travail? Est-ce que c'était vraiment deux types d'enseignement différents, ou est-ce qu'avec Ali Sriti, vous travaillez aussi avec des partitions, aussi selon le même principe du conservatoire?
C'est deux écoles complètement différentes. Le conservatoire, c'était vraiment des études académiques avec le solfège, avec les exercices qui embêtent tout le temps les élèves. Moi, personnellement, j'ai horreur des exercices parce qu'ils nous donnent des exercices que je me pose la question, à quoi servent ces exercices? On les utilise pas pendant qu'on joue le morceau. C'est juste un exercice, voilà, pour embêter les élèves. Je trouve ça, je sais pas si ma... C'est ma vision. Sinon, avec Ali Sriti, c'était vraiment la tradition orale. Rarement, on met une partition devant nous. On jouait tous les deux, même quand j'étais débutante avec lui, il joue avec moi. Or, au conservatoire, c'était pas ça. Il te donne la partition, il te dit « Ah non, fais baisser le doigt, ah non, c'est pas ça ». Là, je trouvais que c'est vraiment, c'est pas la bonne méthode pour qu'on avance. Surtout dans la musique arabe. Voilà, donc j'ai passé des années et des années avec Ali Sriti à apprendre par cœur ce qu'il me donne, ce qu'il me joue.
Et aujourd'hui, vous-même, vous avez tout un cursus, vous enseignez depuis longtemps. On va en reparler tout à l'heure de cette partie-là de votre biographie. Mais pour rebondir, pour réagir, pour aller à l'essentiel de votre pratique de la musique, Yousra Dabi, lorsque vous enseignez, c'est... oud en main, aussi à la manière de votre maître, d'Ali Sriti, ou est-ce que le conservatoire vous a condamné, même en Tunisie, à garder la structure, à garder la distance? Est-ce que vous avez dû enseigner en dehors pour pouvoir rendre les deux compatibles? Comment ça s'est passé? Comment vous avez concilié ces deux aspects?
C'est une chose qui me tenait à cœur depuis mon jeune âge. J'ai toujours adoré l'enseignement, j'ai toujours adoré, j'aime bien donner. Et donc, ce qui m'embêtait dans tout ça, c'est la manière comment les professeurs, surtout d'instruments, transmettent leur musique. C'était la partition, c'était... Donc, j'ai combattu jusqu'à récemment, donc à l'Institut. Plus jamais de partition pendant l'examen. Plus de partition et pas de partition au moment du cours. Je peux te donner la partition, tu fais ce que tu veux avec. Mais par contre, j'enregistre, je leur enregistre le morceau en audio, en vidéo, ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, pas de partition. Parce qu'avec la partition... C'est vraiment un squelette. On peut pas les ornements et les spécificités de la musique arabe ou autre, hein, on peut pas quand même la transcrire exactement comme on doit la jouer. C'est plus qu'impossible. Et même en Occident, hein, on commence à écarter le solfège, parce que franchement, ça bloque. Donc c'était ça depuis 88, donc. 88, j'ai commencé à enseigner jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment... Par contre, mes débuts, ma première année d'enseignement, c'était avec la partition, mais je jouais avec l'élève. Mais il y avait toujours une partition devant nous, devant l'élève plutôt, mais je n'ai pas trouvé les résultats que j'attendais. Donc là, j'ai écarté complètement. C'était difficile pour certains élèves, c'était trop difficile pour certains. Mais ça a marché.
L'écoute des mondes, Vincent Zanetti.
Yousala Dabi, on a vu tout à l'heure en votre compagnie la naissance de votre motivation, de votre passion, de votre vocation pour la musique, le parcours de la formation académique, puis l'initiation avec Alice Reti. Vous avez une autre formation, un autre métier, une profession paramédicale. À quel moment vous vous rendez compte que ça suffit maintenant, la musique doit tout occuper et comment ça s'est passé ce moment-là? C'est un tournant important.
La décision n'était pas facile du tout. De se décider, est-ce que je m'oriente dans cette discipline ou dans cette voie ou je continue la spécialité de paramédicale. J'ai pris une période de réflexion qui a plus ou moins duré. Hein. Ça a duré quand même 3 ans. D'accord. Oui, ça a duré. Donc jusqu'à ce que je termine mes études à l'Institut supérieur de musique. 4 ans. 4 ans, voilà, jusqu'à la maîtrise. Et du coup, je me suis dit, bon, stop. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je pourrais pas vivre, je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais est-ce que je pourrais continuer dans cette voie ou pas? Où je termine dans l'autre spécialité qui vraiment me disait absolument rien. C'était déprimant comme... Ah oui, j'ai passé une année, c'était atroce, atroce. Mais heureusement que je faisais en parallèle la musique.
Et donc, finalement, qu'est-ce qui a permis de faire le choix?
C'est-à-dire le fait d'avoir un diplôme à part, ça adoucit la tension, peut-être, au niveau familial. Donc voilà... Elle est diplômée. Si jamais ça ne marche pas pour la musique, là, elle peut retourner. Mon père, bizarrement, c'était vraiment... Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, voilà, je vais démissionner. Tout simplement. Un matin, je lui ai dit, voilà, ce week-end, je vais démissionner. Qu'est-ce que tu en dis? Il m'a dit, tu as bien fait. Démissionne. Le bon Dieu, il t'a donné un don. Essaye de l'utiliser correctement. Dans les bonnes conditions. Et c'était ça qui m'a soulagée plutôt, parce que je ne veux pas quand même que mon père ne soit pas d'accord de ce que je fais. Voilà.
Yousra Dabi, votre père, vous a vu en concert?
Ah oui, mais c'était en 96, en 96. C'était la première fois qu'il me voit sur scène et il était très 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 ému et très fier. En même temps, parce qu'il ne s'attendait pas à voir à écouter ce qu'il a écouté. Il ne s'attendait pas du tout. J'étais plutôt discrète à la maison. Donc j'ai ma petite chambre, je joue tout le temps, je chante, je dois fermer la porte. Mmh. Et donc là, c'était la surprise pour lui. Voilà.
J'imagine, effectivement, pour lui, c'est la découverte, pour votre père, la découverte d'une soliste. Quelqu'un d'autre, une autre personnalité, mais vous-même, à quel moment vous vous rendez compte que vous êtes une soliste, Yousra Dabi, et pas seulement une musicienne, quelqu'un qui suit un cursus, et pas seulement une enseignante, vous aimez ça, on l'a compris, mais à un moment donné, vous devenez une soliste, quelqu'un qui fait des récitals, quelqu'un qui va voyager, c'est quand même un autre choix, c'est une autre responsabilité.
Il faut dire, au début, ce n'était pas ça, pas mon objectif, non. Je n'ai même pas pensé à ça. Donc là, je suis luthiste, je joue dans des troupes, je fais de petits groupes, j'ai travaillé en duo, mais je n'avais pas l'intention de faire une carrière de soliste parce que je ne sais Je n'ai pas une idée claire sur cette spécialité, entre guillemets. Et donc, c'était en 92, à l'Institut supérieur de musique, quand je poursuivais mes études, avec Nassir Chemin. C'était le... Voilà, il vient d'entrer en Tunisie pour enseigner. Et là, il a mis le paquet. Pour lui, tu dois être soliste. Voilà. On a beaucoup travaillé, il s'est investi à fond, et voilà.
Alors, quand même le rappeler, Nassir Chama, c'est toute l'école de Bagdad. Avant d'arriver en Tunisie, c'est aussi le passage par l'Égypte. Et lui-même, c'est quand même un monument du Oud. Avec lui, quel type de relation, justement, c'est la poursuite de ce qui se faisait avec Ali Sriti, ou c'est carrément autre chose? Comment ça se passait, la relation musicale avec Nassir Chama?
Là, vraiment, c'est autre chose. Il faut dire que Nassir Chama, il travaille beaucoup sur la précision. Mais vraiment, il travaille à la loupe. Un morceau musical, il le décortique jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière note. Chez Ali Sriti, c'était autre chose. C'était plutôt la mélodie, les techniques traditionnelles du jeu. Et même avec Ali Sriti, on ne travaillait pas sur les détails. On travaillait plutôt le global, la phrase musicale, la mélodie. Nassir Chama, non. C'était vraiment cette note, cette petite phrase qui est de deux mesures, on doit la répéter 1000 fois, j'exagère un peu, mais on doit la répéter plusieurs fois, mais c'était vraiment du travail très 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 minutieux, et ça m'a beaucoup servi. Mais je suis vraiment heureuse que ça se passe de cette manière. Avoir connaissance de l'école traditionnelle, avant, j'ose dire, l'école de Nassir Chama. Si ça a été le contraire, là, si j'ai commencé par l'école de Nassir Chama, je suis sûre que je ne jouerais pas de cette manière en ce moment.
Est-ce qu'on peut dire, Yusra Dabi, lorsqu'on évoque ces deux personnages, ça nous permet un peu de mettre des figures et de rendre vivantes des époques. Est-ce qu'on peut dire que Ali Sriti, d'un côté, Nassir Chama, de l'autre, ces deux âges du Oud, est-ce qu'on peut dire que Nassir Chama incarne quelque part l'approche moderne du Oud?
Oui, je pense que c'est ce qu'il essaye de transmettre. C'est une école à part, c'est une école qui se base sur la virtuosité et puis la précision, comme je l'avais dit. Il y a une partie de l'école de Bagdad dans tout ça. C'est vrai que Nassir Chama, on sent qu'il y a l'influence de l'Occident. Mais il reste toujours une part de la tradition irakienne, voilà, de la musique de Bagdad.
Ça nous prendrait des heures si on commence à parler de l'école de Bagdad, parce que ça nous amènerait à d'autres choses et à des allers-retours, vous venez de le dire, Yousra Dabi, entre Orient et Occident. Il y a eu des apports de part et d'autre, c'est évident. Mais ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, est-ce que quelque part la géographie de la culture arabe, la géographie du maqam et des maqamat est importante pour une soliste, pour une musicienne comme vous? Est-ce que c'est important de connaître les différents répertoires? Je pense par exemple à l'immense répertoire turc, le répertoire égyptien qui s'est énormément développé à partir des années 1930, les musiciens en Tunisie, ben, Al-Sriti évidemment, mais aussi ce qui s'est passé au Maroc, avec des écoles plus récentes, avec Saïd Chraibi, des gens comme ça. Cette géographie-là, pour vous, elle est importante?
Bien entendu, elle est très importante parce que pour un artiste, il faut qu'il ait une connaissance de toutes, de beaucoup de musique traditionnelle. Donc, la musique turque qui a une spécificité assez. Moi, j'aime beaucoup cette musique parce qu'il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de nuances aussi. Et puis, même mon professeur Ali Selit, il aimait beaucoup la musique turque et la musique égyptienne, mais égyptienne à la manière traditionnelle. D'accord? Donc, si on dit égyptienne, on parle de Riyad Sombati, on parle de l'utiste Riyad Sombati, on parle de Mohamed Al-Qasebji, on parle rarement et plutôt pas de Farid Latrèche, si je parle d'Ali Sriti, comment il voit les choses. Donc, la Turquie aussi, pour un artiste, pour un musicien, il faut qu'il ait un minimum de bagages. C'est comme un poète. Un poète, il doit vraiment avoir appris je ne sais combien de poèmes de l'école ancienne pour qu'il puisse produire une poésie.
Connaître ses classiques, en fait. Est-ce que vous ne pensez pas, Yousra Dabi, que aujourd'hui, une des manières de connaître ses classiques, c'est d'avoir recours aux disques, d'avoir recours aux enregistrements? C'est génial, parce que ça nous permet de revivre des moments de musique très forts du patrimoine, avec des solistes qui ont disparu, dans des conditions plus ou moins bonnes, suivant la qualité de l'enregistrement, mais c'est possible. Mais en même temps, du même coup, ça prend souvent la place des maîtres qui ne sont plus là. De maîtres traditionnels qu'on n'a pas forcément sous la main, on n'a pas forcément la chance, le privilège d'avoir accès à Ali Sriti, comme vous l'avez eu. Est-ce que quelque part ces raccourcis-là ne sont pas en train de niveler un tout petit peu le répertoire? Et est-ce que justement l'école moderne du oud n'a pas tendance à tout miser sur la virtuosité, sur un jeu beaucoup plus à l'occidental? Je dis ça, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est juste par rapport à un patrimoine. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est un peu l'état des lieux? Ce sera forcément subjectif, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Avec la nouvelle technologie, là, tout ce qui est MP3 et les disques, je pense que n'importe qui peut avoir la musique qu'il veut. Donc, vous parlez des écoles de luth en ce moment-là, ils sont en train d'être occidentalisés. Et je trouve que c'est un moyen de faciliter. Parce que n'importe quelle personne... je ne critique personne là et je ne juge personne, mais n'importe quelle personne peut arriver à un niveau X de virtuosité, quel que soit son bagage, quelle que soit sa culture musicale, mais avoir connaissance des écoles et des spécificités de chaque école turque ou égyptienne ou irakienne ou syrienne, ce n'est pas facile du tout. Par contre, refaire un exercice 100 fois, on va y arriver. Mais trouver cet ornement, comment on doit le jouer, c'est pas évident du tout. Malheureusement, pour la musique arabe, et spécialement pour le luth, on commence à l'occidentaliser et on fait plus la différence entre une guitare et un luth oriental. Et c'est malheureux. Je trouve que c'est très malheureux même. Thank you.
Yousra Dabi, on a évoqué au cours de cette conversation vos premières heures de musicienne, d'apprenti musicienne et tout le poids du carcan familial à un certain moment où les femmes n'avaient pas le droit de chanter à la maison. Aujourd'hui, vous êtes ici en Suisse, vous ne voyagez pas énormément pour donner des concerts, mais chacun de vos concerts est un moment attendu. Votre disque enregistré à l'Institut du Monde Arabe est un moment de musique très apprécié dans une collection qui est prestigieuse. Et en même temps, vous êtes une des rares femmes dans ce milieu-là. Quelle impression ça vous fait? Est-ce que vous sentez tout de même aujourd'hui un début de relève féminine derrière vous ou vous avez toujours l'impression d'être très seule comme femme dans ce paysage?
Ah non, je n'ose pas dire ça. Hein. Pour moi, je suis artiste, mais j'aimerais bien ne pas me classer. Voilà, je suis je suis artiste femme. Donc, moi, j'aime bien, pour ceux qui m'écoutent ou écoutent mon enregistrement, ils ne me classent pas déjà dès le début. Juste, ils écoutent la musique. Parce que pour moi, être femme ou être homme, là, ce que tu peux transmettre, c'est ça le plus important. Et pour moi, franchement, ce que je souhaite, ce que j'essaye de faire à chaque concert ou à chaque prestation, c'est d'être honnête et d'être sincère. J'essaye en tout cas, et j'espère que je réussis à chaque fois.
Au-delà de cette question, Yousra Dabi, il y a aussi tout ce nouveau regard que le monde arabe nous oblige à avoir sur lui, parce qu'on vit continuellement avec une masse de préjugés hérités ici, ces vieilles rivalités, ces vieux conflits entre Occident et Orient, il y a la crainte de l'autre, la crainte de la culture, une autre religion, une autre approche, une autre musique, un autre héritage, etc. On n'en a jamais fini avec ça. Mais parmi toutes ces images, il y a quand même cette réalité dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'à un certain moment, dans un contexte culturel donné, vous, en tant que jeune fille, vous ne pouviez pas. Et ensuite, voilà, il y a quand même l'acceptation de ce que vous êtes devenu. Il y a cette émotion lorsque votre père vous entend jouer, et vous, lorsque vous jouez en sachant qu'il est là. Ce qui m'intéresse au-delà de la question, c'est de savoir est-ce que aujourd'hui, pour des sensibilités féminines qui veulent faire de la musique, le chemin est accessible dans les pays du Maghreb, dans le monde arabe en général, ou est-ce qu'il y a toujours une grande retenue ?
Ah non, maintenant je pense que c'est nettement plus facile qu'avant, parce que maintenant, et surtout les femmes, elles ont une facilité plus que les hommes dans nos pays arabes en ce moment-là, de se produire sur scène, ou de, bien au contraire, ils préfèrent plus les femmes. Mais bon, tout dépend bien sûr du produit. Mais je pense que ça a beaucoup changé en bien pour le bien de la femme. Mmh. Le chant est libre. Et puis la femme, surtout la femme musicienne, elle peut faire ce qu'elle veut sans contrainte, sans problème, si on peut, j'ose dire.
Yousra Dabi, dans la musique que nous écoutons aujourd'hui, dans votre musique, de toute façon, il y a la tradition d'abord, mais il y a une part de patrimoine, on va dire, qui est réutilisée, rejouée. Et puis, il y a des pièces, si je lis le livret de ce CD, là, enregistré à l'Institut du Monde Arabe, des pièces qui portent votre signature. Quand aujourd'hui, on interprète tel ou tel maqam, quelle est la part de liberté, quelle est la part de composition, d'improvisation, comment est-ce que ça se passe ?
Il y a beaucoup d'improvisation, il faut dire. Mais improvisation codifiée. C'est de l'improvisation, mais bien réfléchie. Ce ne sont pas des improvisations qui se font sur place ou sur scène. Donc là, je sais très bien ce que je dois faire après ce maqam-là. Et donc, je fais attention aussi à notre tradition, à nos maqams. C'est-à-dire, bien sûr, sans le vouloir, mais c'est des choses en moi. Donc, j'essaye de m'exprimer suivant ce que j'ai comme bagage de notre culture musicale arabe. Voilà, donc il y a une grande part d'improvisation. Sinon, c'est des morceaux qui ont été composés dans des conditions, circonstances bien déterminées. Par exemple, la inquiétude. Mais c'était vraiment, pour moi, c'était une expérience très forte. J'ai vécu un moment très difficile en Belgique. C'était la période de mon concert. Ça a été normalement, je devrais faire un CD là-bas, avant Lima. Et du coup, ça s'est très mal passé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et du coup, je n'étais pas bien. Du tout. Donc là, le morceau Inquiétude, mais c'était vraiment, je racontais ce qui s'est passé, bien sûr, via un morceau musical. Mais c'était très, très, très sincère. J'ai pleuré sur scène, hein, croyez-moi. Donc c'était très, très fort. Donc, pour revenir à ce que vous venez de dire, donc, il y a beaucoup de patrimoine dans ma musique. Mais il y a beaucoup aussi de sincérité et de ce que je ressens. Je l'exprime à ma manière.
Mmh.
Thank you.
Espace 2, l'écoute des mondes.
Haïra, l'inquiétude, une composition de Yousra Dabi, extraite comme toutes les musiques que nous avons écoutées ensemble ici aujourd'hui d'un magnifique CD publié en 2004 par l'Institut du Monde Arabe à Paris, sous le titre « Rhapsodie pour lutte ». Avant de nous quitter et pour rester dans le monde du maqam et de la musique classique arabe, mais au féminin, j'aimerais partager avec vous un coup de cœur récent, cet extrait d'un CD qui vient de sortir, lui, dans la collection Le Chant du Monde, chez Harmonia Mundi. Il est l'œuvre de la très talentueuse chanteuse Aïcha Redouane, artiste marocaine, installée depuis longtemps en France. Avec son complice de longue date, le percussionniste libanais Habib Yamin, elle consacre tout son dernier opus à l'œuvre poétique d'une des plus grandes saintes de l'islam qui est vécue à Basra en Irak pendant le 2e siècle de l'Égypte, soit la 8e de notre ère chrétienne. Elle s'appelait Rabia al-Adawiya et elle a laissé derrière elle une œuvre poétique emplie de mysticisme. Ainsi ce texte, mis en musique par Habib Yamin et Aïcha Redouane. Ô ma joie, mon désir, ô mon appui, mon compagnon, ma provision, ô mon but, tu es l'esprit du cœur, tu es mon espoir, tu es mon confident, mon désir de toi et mon viatique. Désormais, ton amour est mon but et mon délice et la splendeur de l'œil de mon cœur assoiffé. Si tu trouves plaisir en moi, alors, au désir de mon cœur, ma joie débordera.
Ya sururi wa munyati wa imadi wa anisi wa uddati wa muradi أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي مؤنس وشوقك زادي يا سروري ومنيتي وعمادي وأنيسي وعدتي ومرادي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي مؤنس وشوقك زادي حبك الآن بغيتي بغيتي ونعيمي حبك ومرادي أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي مؤنس وشوقك زادي ليس لي عنك ما حييت برا
ومنيتي
يا سروري
ومنيتي
يا سروري
ومنيتي
آه آه يا سروري
ومنيتي
آه 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 يا سروري
ومنيتي
آه يا سروري
ومنيتي.
Avec cet extrait de Makam d'amour, dernier CD d'Aïcha Redouane, nous voici arrivés au terme de cette édition de l'Écoute des Mondes, une production de Vincent Zanetti, à réécouter en tout temps et même à podcaster à partir de sa page internet monde.rsr.ch. Dimanche prochain, je vous emmènerai dans le monde des griots de Mauritanie, mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Charles Sigel et c'est comme il vous plaira. Belle semaine à vous. Espace 2, il est 15h.